Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois le comédien François De Brouwer, dont le premier spectacle mythique se trouve sur YouTube, La Loi des Prodiges, capté en janvier 2020 à La Scala. Et si vous êtes à Paris, ne ratez pas François en chair et en os, au Théâtre du Petit Saint-Martin. Il joue du mercredi au samedi, vous pouvez réserver directement sur Billets Réduc. Et maintenant, préparez-vous pour un épisode aussi exceptionnel que mon invité. Bonne écoute.
Alors on va commencer à enregistrer parce que c'est un truc qui me tient à cœur. C'est quand les gens, je supporte pas quand les gens ne me disent pas si j'ai un truc entre les dents.
Ouais.
Je ne supporte pas rentrer chez moi, avoir passé... Le pire c'est quand c'est un truc un peu genre séduction. Tu rentres, tu te regardes dans le miroir, tu jettes tes clés là. Bout, du feu, enfin tu vois, une tranche de laitue quoi. Et tu te dis bah peut-être que quelqu'un aurait pu me le dire quoi, moi je me sens trahi quoi. Ou les crottes d'œil, je pense qu'on devrait se le dire. Moi, je passe mon temps à checker, tu vois, quand je me maquille, si j'ai pas des crottes d'œil et je supporte pas avoir un énorme truc noir au coin de l'œil, rentrer, me dire, bah, pourquoi personne me l'a dit ?
Je pense que ça peut être une bonne manière de sonder la complicité avec quelqu'un. Tu vois ? Te dire, écoute, tu te mets discrètement un petit morceau de salade entre les dents, et tu vois si l'autre te le dit. Si l'autre te le dit, c'est bon signe.
C'est déjà le début.
C'est le début,
le début des confidences. Je devrais commencer chaque podcast comme ça. Tu sais, il y a un problème.
Ouais. Non, tout va bien.
Ah, mais non, mais grave. En fait, quand on aura un maxi budget, il faudra faire des pranks, tu vois, aux invités.
Comment on règle ce casque pour qu'il soit juste un tout petit peu plus serré ? C'est possible ou pas ?
Non, c'est pas possible. C'est une remarque qu'on m'a déjà faite.
Ah, mais c'est pas grave sinon. Ce qui tombe un petit peu sur mes lobes. Donc c'est mes lobes qui retiennent le casque.
Ok.
Non, mais tout va bien.
Tout va bien.
C'est très bien. Ok, donc la salade entre les dents.
Je vais te lire ton petit poème.
Ouh.
T'es prêt ?
J'ai le trac.
François. François est un merveilleux, merveilleux, merveilleux acteur. Comment s'est-on rencontré ? Je me souviens de t'avoir découvert à la loge, rue de Charonne, le soir où Jonathan Cohen aussi était venu te voir. Tu étais époustouflant, hypnotisant. Puis, on a travaillé ensemble avec les Yes Vous Aime pour leur fake talk show sur Comedy Plus. Mmh. On avait un peu sympathisé. Tu étais dans une période assez sombre, je crois.
Ah mince. C'est possible, il y en a eu quelques-unes.
Mais tellement drôle dans tes magnétos. Puis, on s'est recroisés en soirée chez Mustapha, Benaïbou. Mmh. On avait dansé ensemble, je m'en souviens, sur la chanson « Filme-moi » de Alice.
Oh.
Je t'avais fait un playback. Et puis, on a échangé un peu pendant les confinements sur Instagram. Je te veux depuis très longtemps dans mon podcast, depuis sa création. Tu es l'un des premiers mecs que j'ai contacté et tu m'auras fait attendre 3 ans. En novembre dernier, tu es venu voir mon spectacle. Tu as eu des retours très gentils. Puis moi, je suis venue voir le tien, le nouveau, Rencontre avec une illuminée, la semaine dernière. Et encore un chef-d'œuvre d'invention, d'imagination. Je le recommande à tout le monde depuis. Et je veux le crier à la terre entière. François De Brouwer est un génie devant l'éternel.
Waouh. Merci, merci Rose.
T'as rougi ?
Bah oui, évidemment. Évidemment. C'est pour ça que tu filmes, c'est juste pour le
rougissement
final.
Ah ouais, en plus on pourra faire un petit effet. On mettra tout le fond rouge. Et bah super, et maintenant on éteint les caméras.
Ok.
Donc tu peux même te foutre à poil si tu genre, si t'as chaud. Les gens me disent « Ah, je veux bien que tu mettes ton téléphone en mode avion. »
Ouais, c'est fait.
Pourquoi tu veux pas professionnaliser, avoir une vraie équipe caméra, un ingé son ? Mais en fait, je veux pas. Je veux pas qu'il y ait des gens qui soient là en plus de l'invité et moi.
Ouais. Et donc, tu veux pas de, tu t'as jamais fait en public non plus?
Bah là, on va faire un enregistrement public à Grande Contrôle pour le 100e épisode. Mais je pense que en public, il peut pas y avoir de confession intime.
Ouais, ouais, ouais.
Donc en fait, j'inviterai 4 invités sur le plateau. Il y aura Thomas Poitvin.
Ok.
Ambre Larrazet, peut-être tu connais?
Ouais, ça me dit quelque chose.
Ouais. David Azincote et Christine Berrou. Et en fait, on fera un grand action vérité géant.
Ok, génial.
Ouais, ouais, ouais. Donc ça, je pense que ça sera rigolo. Il faut que je prépare les actions vérité que je leur ferai faire. Mais je pense que ça va être marrant. Il y aura des gens et tout, ça va être rigolo. Mmh. C'est festif.
Ouais, c'est bien, puis ça porte.
Ouais.
Les acteurs, ils se transforment dès qu'il y a un public.
Ouais, puis pourquoi on joue plus à action vérité?
Pourquoi on joue plus à action vérité? C'est une bonne question. Hein.
T'aimais ça, toi?
Écoute, ouais, j'aimais bien, mais bon, évidemment, c'était toujours orienté. orienté bisous. On attendait ça avec impatience. Mais ouais, ouais.
Bah non, pas forcément. Il n'y avait pas que le côté action. Il y avait le vrai aspect vérité, quoi.
Ouais, oui, apprendre à se. T'as raison.
Tu vois, et justement, en fonction de. Enfin, je sais pas si on était tous. Je sais que, je sais pas, des adolescents en cercle. En fonction de qui te le demandait. Moi, je sais que si c'était le mec mignon, je disais action, en espoir de action. Mais si c'était un mec qui me plaisait moins, bah là, je disais vérité. Mais si tu veux, apprends-en sur moi autant que tu veux. De toute façon, il va rien se passer, tu vois.
Mais c'est curieux quand même d'inventer un jeu. Où il y a une injonction à dire la vérité.
Ouais.
Où d'un coup tu dis bon, c'est qu'au fond on a envie de la dire quoi.
Ouais, puis t'as vu, c'est l'un ou l'autre, action ou vérité.
Intéressant ce jeu.
Bah, dans la vie, on passe à l'action, mais est-ce qu'on se dit la vérité? Et quand on se dit la vérité, est-ce qu'on passe à l'action?
Est-ce qu'on n'est pas plus vrai quand on passe à l'action?
Que quand on dit la vérité? Mmh. Est-ce que c'est pas la vérité, passer à l'action? Ouais, parce que c'est vrai, quand on s'est dit trop de vérité, est-ce qu'il est encore temps de passer à l'action? Moi, tu sais, je suis fascinée par les gens qui restent pendant 10 ans amis et qui, d'un jour, bam, se mettent ensemble.
Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est assez fascinant, ça. C'est assez beau. Ouais, j'aime bien ces histoires aussi. J'ai pas de commentaires. Non, non, non. Je repense à une histoire qu'on m'a racontée où vraiment, c'était un couple d'amis et puis... Vraiment, ils se connaissaient très très bien, très complices, ils avaient été colocataires, enfin vraiment, ils se connaissaient très très bien. Et puis, ils font une sieste au printemps, sous un arbre. Et là, vraiment, la fille se réveille avec une excitation sexuelle totalement inattendue, quoi. Et ça part de là. Et elle lui saute dessus, et puis c'est parti. Je dis, c'est quand même fou, quoi, qu'en 10 ans de relation, ils ne se soient pas retrouvés dans une situation où potentiellement, tu vois, ça circulait...
C'est magnifique cette histoire.
C'est très très beau. Et puis ils sont ensemble, ils ont des enfants, je crois. Ouais, ouais.
Enfin, c'est évident que si tu fais la sieste sous un arbre avec quelqu'un. Par contre, oui, c'est un cadre quand même ultra. Ultra.
Bucolique.
Ouais, bucolique, romantique. Je sais que la sieste, c'est un vrai moment d'intimité, encore plus que passer la nuit, je trouve, ouais, de partager une sieste.
C'est merveilleux ça, les siestes.
Ah ouais.
Les siestes quand t'es amoureux, dimanche, au printemps.
Ah ouais.
Tu vois, après avoir brunché. C'est ce qui veut dire brunché, que tu t'es déjà levé très tard.
Ouais.
Tu fais que dormir. et baiser, bouffer.
Ah ouais.
Ça, c'est beau ça.
Avec que tu connais, on faisait beaucoup de siestes, mais plus quand on était amoureux, quand on était amis. En effet, et on faisait, on se faisait des siestes ensemble, entre amis, quoi.
Oui, mais des siestes crapuleuses, comme on dit.
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non. Alors, moi, du moment où on s'est séparés, on a vraiment plus jamais couché ensemble.
Mais des siestes quand même câlines, où vous preniez dans les bras.
Ouais, ouais, enfantine, tu vois, un peu comme un frère et une sœur. Ouais, ouais, mais on faisait la sieste ensemble. Et l'un des premiers trucs, quand il est sorti avec Adrienne, elle lui a dit « Les siestes, c'est fini.
» C'est une très bonne réplique.
C'était la première mise au point. Il n'y avait pas à interdire énormément d'autres choses. Uh-huh. Mais en effet, par contre, si, bah, on a arrêté de... Ouais.
Je comprends que ça puisse être une limite.
Elle a mis cette limite-là. Elle a mis la limite, pas de sieste. Vous pouvez aller au cinéma, faire des dîners, vous ne faites pas la sieste ensemble.
Vous pouvez coucher ensemble, pas dans un lit, non. Mais pas de sieste.
Ouais, pas de sieste. Bah oui.
Je comprends.
Ouais, bah si, parce que c'est hyper intime, la sieste. Et en même temps, il faut justement atteindre cet endroit où tu désires plus trop l'autre. et où tu trouves du bonheur dans la sieste.
Mais j'imagine que c'était pas que la sieste, c'était des conversations comme ça allongées, un peu déliées, non?
Est-ce qu'il y avait de ça?
C'était pas vraiment juste une sieste.
Si, je me souviens qu'on faisait des siestes.
C'était, attends, je dors tellement mieux avec toi. On se retrouve non, après le déjeuner comment et on dort.
Non, parce qu'en plus, il avait un souci. Voilà, est-ce que je devrais à nouveau biper son prénom si je balance des trucs sur lui? Maintenant, il faudrait que je donne à chaque fois. Parce qu'en plus, j'ai écrit un personnage dans mon livre et c'est Malo, tu vois. Mm-hmm. Donc, comment je fais?
Voilà, je sais pas qui c'est.
Je vais biper son prénom et on va dire Malo à partir de maintenant.
D'accord.
Il avait une sudation extrême. Donc, ça veut dire...
Attends, est-ce qu'on parle de la personne que je connais?
Oui.
Qu'on appelle Malo?
Non. Ah, moi, je crois pas qu'on ait quelqu'un en commun qui s'appelle Malo.
Non.
Ah.
J'ai pas compris ce jeu de faux prénoms.
En fait, je vais dire quelque chose, mais...
La personne avec qui tu siestais s'appelle Malo désormais.
Voilà, exactement.
Ok, c'est bon, je te suis.
J'ai écrit sur cette personne et c'est le pseudonyme que je lui ai donné dans mon livre.
Je
voilà.
comprends.
Comme ça, il peut pas me faire de procès. Et hop voilà. Non, il n'en a pas l'intention, puis il a beaucoup aimé le livre. Mais en tout cas, il avait un souci, c'est que la nuit, et je pense que c'était l'angoisse, c'est pas un problème, il suait des litres. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on se réveillait...
Je suis pas étonnée, connaissant Malo.
Les draps étaient mouillés, mais trempés, comme si on avait versé un seau d'eau dans le lit, tu vois. Donc, quand même, ça veut dire que moi, 2 ans et demi de moiteur au réveil, tu vois. 2 ans et demi de l'ange, tu vois, vraiment humide. Mais bizarrement, pas pendant les siestes. J'ai pas le souvenir de ça pendant les siestes. J'ai souvenir de crise de boulimie. J'ai souvenir de, on n'était plus ensemble, on était amis. On se retrouvait pour regarder Game of Thrones.
Okay.
On bouffait des cookies et on s'endormait. Tu vois, donc il n'y a pas de discussion déliée. Toi, c'est pas ta vision du romantisme. Hein.
Les cookies et Game of Thrones? Non, pas tellement. Pas tellement. C'est plutôt plaisir solitaire, ça.
Ah ouais,
ouais? Ouais, non, dès que je suis avec quelqu'un, je sais pas. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je vais faire seul.
Ok.
Ouais, je suis un peu honteux de regarder 10 épisodes de Game of Thrones à la d'affilée en bouffant des cookies.
Ouais.
Du coup, avec l'autre, je vais essayer de me tenir un peu. Tu vois, je raconte que je suis pas tout à fait moi-même avec l'autre. intéressant. Non, je sais pas si c'est possible au bout d'un moment dans la relation. Ouais, tu peux te retrouver à bouffer des cookies.
Ah série. Ouais.
Non, puis Game of Thrones, c'est la classe.
Mais c'est ton premier podcast, François?
Non, j'en ai fait un avec Verino et il a abandonné le podcast juste après. Donc j'ai fait abandonner le podcast à Verino, je tiens à te prévenir. Toi, ça fait un moment que tu es dans la course, donc ça va. Mais je tenais quand même à te le dire. Non, c'est vrai, il m'a vraiment dit, il était à son 3e ou 4e invité.
Ah ouais.
Et puis il m'a dit, j'ai essayé de monter le nôtre et puis...
Impossible.
Et puis je pense, pour être poli, il m'a dit, je me suis rendu compte que j'étais pas bon. Mais je crois que ce qu'il n'osait pas me dire, c'est vraiment, on était chiant, quoi. Ou j'en sais rien.
Mais pour toi, c'est le pire des exercices parce que t'es quelqu'un qui est hyper pudique.
Ouais.
Et qui, sur scène, en fait, même si tu parles de toi, peut-être plus quand même dans le dernier spectacle, mais en tout cas, dans La Loi des prodiges, c'est vraiment des personnages, quoi.
C'est vraiment des personnages, c'est vraiment des situations, des histoires. Et c'est vrai que... Ouais, moi, je suis très intimidé par cet exercice de parler en son nom. J'ai toujours l'impression que ma vie est totalement inintéressante. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'exercice le plus simple pour moi. Mais en même temps, ça me plaît d'aller vers ça. Et c'est vrai que dans ce spectacle, il y a un petit lâcher-prise sur la pudeur quand même.
Oui.
Alors c'est fictionné, mais c'est que des impros autobiographiques.
Mmh.
Et toutes ces impros autobiographiques, je n'osais pas les mettre dans les performants que j'écrivais avant, puisque j'écrivais un spectacle depuis 3 ans. Et j'ai finalement changé un mois et demi avant la première. Et j'osais pas mettre ces impros autobiographiques par pudeur, en me disant, on sait jamais, les personnes concernées, tout ça. Enfin, moi, ça me fascine quand j'écoute tes podcasts et que tu changes les prénoms de temps en temps, apparemment. Ouais. Mais
t'as écouté
quand même,
lequel
les, tout le monde doit se reconnaître. J'en ai écouté pas mal. Hein.
Ah ouais?
Ouais, j'ai été scrupuleux. Hein,
t'es pas obligé, hein. Il y a des gens qui vraiment n'écoutent pas.
Ouais, je me suis demandé, puis ça m'intéressait, ça me plaisait. Et par contre, on te rencontre vraiment, quoi.
Ouais, mais moi, tu sais quoi, on me le reproche. En fait, je me suis tellement confiée dans ces podcasts que résultat, j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Et que...
Je pense que c'est intarissable. Bah, t'as toujours une aventure qui va t'arriver dans la semaine que tu pourras raconter, éclairer. Enfin, c'est comme...
Ouais, mais justement, je veux moins le faire quand même. parce que je trouve que ça peut faire foirer la dite aventure, justement. Il y a un mois ou deux mois, j'ai eu une petite histoire avec un mec. Et résultat, dans le podcast, je suis en mode, oh putain, je suis à donf, hein, et tout machin. Et je pense que ça l'a fait flipper, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que j'aurais pas dû être aussi sincère. J'aurais pas dû en parler tout. J'aurais dû garder ça un peu secret. Donc maintenant, j'aimerais bien, genre, un jour, dire à mes auditeurs, bon, ok, ça fait 6 mois, je suis en couple. Ils seront là, what? Tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'en parle un peu. Parce qu'il y a tout de suite des blagues qui me viennent ou des questionnements.
Oui. Je t'avoue que je me suis posé la question.
Ouais.
Je me suis dit, si je me maquais avec Rosa, qu'est-ce que ça me ferait de me dire que potentiellement, 2 jours plus tard, dans un podcast, la panne sexuelle qu'on a eue pendant la sieste.
Ça faudrait vraiment que tu m'autorises à en parler.
Avec Malo.
Ah oui. Non, bah, je demande. Tu vois, par exemple, ce dernier mec, il m'avait dit j'ai eu une seule histoire et elle est devenue lesbienne. C'est-à-dire que toi, les gens arrêtent les podcasts et lui, son ex, était devenue lesbienne. Et je lui ai parlé très sérieusement, je lui ai dit ça, faut que tu me le donnes, c'est-à-dire faut que tu m'autorises à pouvoir en parler.
Tu me le donnes, c'est beau.
Ben, vraiment, je lui ai dit, j'aurais envie, si je parle de toi, de dire que ton ex est devenue lesbienne. Je te préviens, ça sera autour de moi, ça sera à mes amis, et ça sera sur scène, ça sera publiquement, ça sera enregistré. et il est dit ok. Non, mais je pense
que... Mais toi, tu as passé un cap avec ça? C'est-à-dire que tu t'es dit à un moment donné, je lâche tout, ou tu as toujours été comme ça? Cette espèce le mot est dur, mais exhibitionnisme sentimental, psychologique.
En fait, c'était pas vraiment conscient. Je pense que c'est... Mais en fait, je m'en rends toujours pas vraiment compte. Et parfois, tu sais, les podcasts, je les réécoute pas. Quand je les réécoute, j'ai honte, tu vois. Je me dis, c'est carré folle. Ouais. Enfin, faites la terre. Au départ, je me dis, attachez-la. Non, c'est pas... Et puis, c'est quand même un peu toujours décidé. Il y a quand même une limite. Et tu sais quoi? Maintenant, le problème, c'est qu'on me le reproche. Parce que récemment, donc depuis que j'ai écrit le bouquin, où j'ai quand même déjà bien vomi ma life... En fait, en général, je laisse plus parler l'invité. Sauf là, aujourd'hui, avec toi. Mais je fais plus, parce que j'ai plus trop le temps, des intros ou des outros. J'ai fait des outros où je chantais Barbara en déprimant dans ma chambre. Tu vois, j'ai donné ça, cette part. Ensuite, heureusement, il y a des logiciels de montage qui me permettent quand même parfois de me réveiller dans la nuit en sursaut et de dire, il faut absolument que ça disparaisse. Tu vois, mais il y a quand même toujours des gens qui ont écouté, tu vois. J'ai laissé des trucs, j'ai bitché parfois. Enfin, je peux pas le dire. Des trucs que j'ai fait où vraiment j'ai dû les supprimer. Depuis que je le fais moins, je reçois des messages de où es-tu, on ne sait pas, on est obligé d'aller t'écouter quand tu es en invité dans d'autres podcasts pour savoir où tu en étais avec ce mec finalement, alors ça n'a pas duré. Enfin, tu vois, ouais.
Les gens suivent vraiment.
Oui, alors d'un épisode à l'autre, si jamais, parce que je suis chroniqueuse dans Hotline, donc s'ils écoutent Hotline, ils sont en mode oh bravo pour toi, oh bah je viens de t'écouter chez Amel Chabi, ah bah c'est déjà fini. Donc par contre, quand c'est fini avec la personne, quand je suis sûre que je la reverrai pas, et aussi parce que en fait tout de suite je me dis, je rôde avec l'invité la matière de ce qui s'est passé peut devenir une blague, tu vois.
Ouais.
Et c'est ça qui est un peu difficile, de savoir qu'est-ce que tu sacrifies. Quand la relation se passe bien, dorénavant, j'essaierai de ne pas sacrifier, tu vois. Si jamais on couche ensemble et que tu as une panne, promis, pas tout de suite, j'en parlerai pas tout de suite, tu vois. Ouais. J'attendrai qu'on soit séparés. Mais là, vu que quand c'est terminé, tu te dis bon. J'ai voulu, qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai raconté que le mec, en fait, aussi, il allait me ghoster, en fait, tu vois. Il allait faire en sorte, bon, on s'est vu, c'était cool, maintenant, bye bye. Et moi, j'étais en mode, bah non, on rompt. Enfin, tu vois, je veux dire... Et donc ça, je voulais aussi en parler pour un peu pour alerter là-dessus sur ce phénomène, tu vois, que les gens maintenant... Et ensuite, après qu'on... Je lui ai dit, on rompt, et donc ok, il était en orbiting, c'est-à-dire qu'il continuait à regarder toutes mes stories, à répondre et machin, à m'envoyer... tu sais, si je faisais un sondage, la pull à sweat ridicule, ouais, grave. Et puis ensuite, on m'envoie un message sur Insta, ouais, de toute beauté. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et il était en mode, quoi? Et en fait, il ne voulait rien. Il voulait juste orbiter, tu vois. Il voulait juste être comme ça. Et je lui ai dit, bah non. Enfin, soit tu veux coucher à nouveau avec moi, soit, je comprends pas, quoi. Il a dit, ah non. Et j'ai dit, ah bah, ça ne me convient pas.
Mais c'est curieux, ce principe d'orbitage.
Bah, je crois qu'on est vieux, mais les jeunes, c'est vraiment ce qu'ils font, François.
Ah ouais?
Ah, il m'a pris pour une folle. Oui, en fait, les jeunes, ils ne développent pas de sentiments les uns pour les autres. Donc, ils ont des histoires, je t'assure. Hein. Je ne suis pas ma vieille grand-mère, vraiment. Les jeunes n'ont plus de sentiments. Ils couchent ensemble. ils ont du plaisir, mais pas non plus un plaisir extraordinaire, forcément, parce que le plaisir sans sentiment, c'est quand même assez limité. Mmh. Ça dure de 3 semaines, 1 mois. Puis ensuite, ils se séparent. Ils restent pas forcément potes, mais ils s'engueulent pas, ils se disputent pas. Il y a plus de drame, tu vois.
T'es sûre de ça?
Ouais.
Oh, mais qu'est-ce que t'appelles les jeunes?
Bah, les jeunes, style 25, 26, 24, tu vois, lui, il est...
Je sais pas, moi j'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi, donc je me sens quand même pas mal connectée avec les jeunes.
Mmh.
Oh, le yeuve.
Elle est pas LGBT,
bien,
ta sœur?
Bien connectée avec les... LGBT? Non, elle est pas LGBT.
Elle est pas lesbienne?
Non, elle est aucune de ces lettres-là.
Ok. Elle est hétéro?
Elle est hétéro, ouais.
Ok.
Et
parce que c'est un peu différent, il y a vraiment des gros clichés.
Mais écoute, il y a du drama quand même. Hein.
Ah ouais?
Ouais, bah ouais.
Moi j'ai l'impression quand je demande à mes copines, elles sont là, ah ouais mais tu t'en fous, bah bon bah, on s'en fout. Enfin, tu vois qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment, et bah ils ne voulaient plus, bah c'est pas grave, vous êtes vus, machin, bah, on s'en fout. Enfin tu vois, tout est hyper... Alors que moi, si quelqu'un veut plus coucher avec moi, bah, blessure d'orgueil, tu vois. Je veux dire, je vais pas bien le prendre. Je vais, ça veut pas dire qu'on ne redeviendra pas amis un jour. Mais sur le moment, je vais pas être là, ouais, bah, je comprends, mais pas de problème, tu veux plus coucher avec moi, tu vois. Je veux dire, si moi j'ai du plaisir à coucher avec la personne, je suis en mode, ouch, bon, bah tant pis, enfin, tu vois.
Ouais, ouais, écoute, je vois pas ça. Non, non, bah, je pense à partir du moment où tu t'attaches, la blessure d'orgueil, elle est possible, quoi. Il y a une potentielle blessure d'orgueil, donc... Donc je sais pas, je vois pas. J'essaie d'associer ça à une espèce de d'ouverture d'esprit plus grande qu'auraient les jeunes de 25 ans sur les relations, voilà, plus dégenré.
Ouais.
Enfin, mais sinon, non, je vois pas pourquoi il y aurait pas autant de drama, quoi.
Peut-être, je sais pas. Les jeunes, répondez-nous. Mais toi, tu ghostes ou pas? Tu vois ce que c'est ce phénomène de ça t'arrive de faire ça? Est-ce que t'as de plus donner de nouvelles et d'attendre que ça se tasse de soi?
Parfois, ma mère disait une absence de réponse, c'est déjà une réponse.
Ouais.
Et je pense que en effet, de ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Et parfois, j'utilise cette forme de réponse. Mais c'est pas du tout du ghostage. Enfin, je sais pas. C'est souvent parce que je suis indécis.
Ouais.
Souvent que je toute réponse que je vais formuler, je la trouve inutile ou pas juste ou pas honnête.
Ouais.
Donc, je ghoste que dans ces cas-là. Ou sinon, quand c'est trop, j'en sais rien, quand je ne sais pas comment répondre. Par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est ouais. Marrant. Je ne suis pas très connu, donc j'essaie de faire en sorte de répondre à tous les messages que je reçois.
Ouais.
Et il y a des messages qui sont tellement emphatiques.
Waouh, normal.
Ils sont tellement forts et tellement beaux.
Tu sais pas quoi répondre.
Tu sais pas quoi répondre parce que ouais. Tout ce que tu vas répondre est déceptif. Quoi.
Ouais.
Et donc, émoji? Du coup, je réponds pas.
T'exprimes bah non, vachement, ça veut dire les émojis. Tant François, toi, t'as une façon d'utiliser les émojis qui est tellement forte.
J'ai appris à utiliser les
ah
émojis.
Ouais. Tu mets
grâce.
Des fleurs, des femmes qui dansent.
Non, c'est... les femmes qui dansent, c'était pour te faire rigoler.
Ah ouais.
Mais c'est vrai que je mets des fleurs, je mets des petites étoiles, des cœurs.
Ouais, moi quand j'en reçois un message sur Insta vraiment très touchant, je mets genre, tu vois, le smiley ému avec les grands yeux.
Oui, je vois.
Tu vois,
c'est quand c'est vraiment le maximum.
Ouais, le max, je mets smiley ému, main en mode gratitude, plus petite lumière en mode tu m'as apporté de la lumière, je suis un peu ému et merci. Mm-hmm. Et si jamais c'est une meuf, je rajoute un cœur. Pas si c'est un mec, parce qu'après, attention.
Bah oui, c'est vrai que oui, faut faire attention quand même.
Ouais.
On s'emballe, nous, avec un cœur.
Ouais.
Ouais, ouais. Mais non, les amis, ouais, beaucoup des émojis pleins d'amour. Avec des cœurs.
Oui, bah entre amis.
Quand il n'y a pas d'ambiguïté.
Quand il n'y a pas d'ambiguïté, oui, bah cela
dit. Je t'ai mis un cœur, moi?
Genre, je pense que tu m'as mis beaucoup de cœurs.
Oups.
Mais non, cela dit, oui, c'est vrai, il faut faire attention à l'émoticône cœur. Je me souviens, tiens, d'un mec avec qui j'avais couché, qui n'arrêtait pas de m'envoyer des cœurs après. Bon, j'étais tombée amoureuse, quoi. Tiens, ouais. Avec un émoji, hein. Mais j'étais en mode, bon, qu'est-ce que ça veut dire? On est en couple
Mais en même temps, le cœur, maintenant, c'est aussi le j'aime
ouais,
permanent.
C'est donc la fainéantise. Okay. Allez, cœur. Tu vois? Mais je l'utilise tout le temps. Hein. Ça, les émojis, c'est tellement pratique. Pouce.
Ouais, ouais. Je m'étais juré de ne pas plonger dans l'émoji, puis j'y suis allé, quoi.
Ouais, c'est une
on
seconde.
On est tous allés.
Ouais, mais t'aurais frein pas.
Ouais. Non, t'as
mais
vu.
Ouais, ah ouais, je sais, tu te lâches.
C'est vrai que les fleurs, je pourrais utiliser plus de fleurs.
Bah, le choix est limite. Il y a un tournesol, il n'y a que 4 fleurs. Il y a la rose, et t'as vu, il y a la rose fanée, hein. Émoji très fort en termes de symbolique.
Ouais, ouais, ouais.
si jamais tu ne sais pas, au lieu de ghoster.
Ah, c'est terrible, ça.
T'envoies une rose fanée. Vaut mieux ghoster qu'envoyer une rose fanée.
Ah oui.
Cela dit, c'est très rigolo. Rose fanée, cœur brisé. T'as vu, il y a le cœur brisé ou cœur noir, cœur blanc, que j'utilise parfois en légende.
Et puis tu sais, quand tu fais des erreurs d'émoji qui partent trop vite, des erreurs de manip, et là tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signale que c'était une erreur parce que je ne voulais pas envoyer ce cœur à cette personne? C'est vraiment malvenu.
Tu ne te mets pas trop loin du micro, François.
Ah, je suis trop loin?
Ouais.
Pardon. C'est ça que je parle bas. C'est toujours un problème quand
voilà.
Je tourne. Voilà.
Moi, c'est marrant parce que c'est souvent par erreur des émojis un peu genre que j'ai utilisé dans la journée, genre dépression ou colère. En mode, ouais, ça marche à tout à l'heure. Je dis, ah non, désolé. Et puis j'envoie juste un émoji contente. Mais j'utilise des émojis tristes aussi ou colère. Quand même, je sais pas. C'est juste. Ouais, avec ma mère. Mais pour me plaindre de trucs. Genre, l'évier déborde à nouveau. Tu vois. Et là, elle répond, ma pauvre chouchou. Et c'est bien. Mais quand les parents ont commencé à utiliser les émojis, immense moment.
Je viens de voir ma mère faire une publication sur Instagram qui utilise à mauvais escient les... Comment ça s'appelle? Le dièse.
L'hashtag. Ouais. Elle a ta mère à faire hashtag.
Ouais, sauf qu'en même temps, dénonçant ma mère qui utilise à mauvais escient, je ne sais pas dire hashtag. Donc tu vois, il y a vraiment deux niveaux de...
Non mais t'as quel âge, François?
Je fais plus vieux dans mon rapport aux réseaux sociaux, non?
Ouais, peut-être. Mais ouais, non, mais c'est sain. On a 2 ans d'écart?
Ouais, j'ai 36.
Ouais, je vais avoir 33. 3 ans.
3 ans d'écart?
Ouais.
Ouais. On les sent quand même.
Non. Non, pas du tout. Non, mais moi, sur plein d'aspects, je suis une vieille dame.
Non, mais c'est vrai que moi, je m'identifie beaucoup à des personnes plus âgées aussi. Non. Parce que ça, c'est terrible. Non, c'est vrai, parce que t'as ton âge, et puis t'as ceux à qui tu... T'as tes références.
Ouais.
J'essaye, heureusement que j'ai une petite sœur, d'ailleurs, qui m'aide vachement à me tenir au courant de ce qui se fait, qui m'a fait découvrir des podcasts, justement, Sophie Marie Laroui. Oui.
C'est grâce à elle que t'es déconstruit et féministe, c'est grâce à ta petite sœur.
C'est en partie grâce à ma petite sœur.
Ouais.
Et puis il y a quelques nanas aussi, et puis il y a quelques lectures.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'elle m'a aidée. Ouais.
Ouais, mais deviens très très vite vieille dame, moi. Je peux passer. Bon, je peux le dire parce qu'elle n'écoutera pas le podcast, mais un quart d'heure, 20 minutes au téléphone avec ma tante, je ne dirais pas son nom quand même, mais qui a un nom de vieille dame, tu vois.
Malo.
Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle lui avait trouvé un pseudo? Non, bon, bref, en tout cas, c'est quand même... au départ, personne n'écoutait le podcast, donc je balançais les blazes. Maintenant, je fais un peu plus attention. Mais ma tante Monique, bon, bref, c'est une vieille dame. Et tu vois, elle parle, comme on n'a rien de profond vraiment à se dire, mais on peut rester longtemps au téléphone. On parle longtemps de mon chat. Alors, comment il va, Minou? Et puis, elle a une voix de vieille. Et moi, je me mets sur sa voix, tu vois, sur son ton. Je dis, Minou, il dort. Ah bon? Ah oui, il dort. Mais il me réveille le matin. Ah! Et alors ça, tu vois, c'est un sujet de cette conversation qu'on a depuis un an. Elle me dit, faut que tu lui achètes une fontaine, un distributeur à croquettes automatique. Et ça, on n'est jamais à court de cette conversation. Parce qu'elle me dit, t'as acheté le distributeur? Je dis, non, toujours pas. Ah, faut que tu achètes. Oui, je dis, c'est vrai, oui. C'est parce qu'il me réveille. Et je lui dis, et puis il me réveille de plus en plus tôt. Et là, bon. Et je dis, avant, il me réveillait sur les coups de 7 heures. Maintenant, il me réveille dès 5 heures. Oh! Et tu vois, c'est le max de l'interaction. Et je prends beaucoup de plaisir là-dedans, tu vois, avec elle. Et ensuite, on parle de nutrition.
Mais je suis content, en tout cas, que notre conversation te rappelle cette conversation-là. et ça m'aide beaucoup à me sentir intégré dans cette confrérie jeune des podcastés.
Des podcastés. Des podcastants.
Des podcastants et des podcastés.
Finalement, à la place des performances, ça va être les podcastants.
Parce que je me suis rendu compte, c'est vrai, c'est une vraie confrérie quand même. Parce que j'ai découvert du coup Sophie Marie Laroui, qui est super aussi, c'est super ces podcasts. Et je me disais, c'est un peu les mêmes personnes qui s'invitent entre eux.
Oui, il y a pas mal de ponts,
Il y a pas mal de ponts, mais c'est super. C'est super. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, tout un langage qui va avec.
Oui.
Voilà, c'est vrai que je me sens un petit peu vieux des fois, mais je suis content que tu m'invites.
Mais non.
D'avoir le sentiment de faire partie de cette confrérie.
Mais oui, mais c'est sûr que... C'est vrai que j'ai un peu peur de vieillir et que parfois, tu vois, le fait d'avoir Marie que tu as rencontrée, la DIRCOM du podcast, et qui a 22 piges, j'avoue que... ça me va bien de fréquenter une jeune, de passer du temps avec elle, ouais. parce que je reprends un peu et je lui dis parfois, je lui dis ça c'est boomer ou pas ? Elle me fait non non pas du tout, et tu vois je me dis ah ok cool, et résultat je vois que j'entretiens grâce à elle une idée, tu vois, de la jeunesse, de, tu vois, ou alors parfois elle me, je sais pas si je partage un truc sur Insta, elle me répond parfait le look, et je me dis ouh, et je me sens vachement validée, tu vois,
ouais,
du
ouais,
fait
ouais.
qu'une jeune nana, tu vois.
Moi je suis allée faire des courses avec ma petite sœur.
Ouais.
Un jour je lui ai dit écoute là, faut que tu m'aides.
Quel te relouque.
Moi je déteste faire les magasins pour les fringues. Et je lui ai dit viens avec moi et puis donne-moi ton avis. Et du coup j'ai acheté plein de fringues de jeunes.
Ouais.
Et j'étais très content.
Mais elle a quel âge ?
Elle a 25 ans, elle a 10 ans de moins que moi, 26.
Ah oui, oui, vous avez 26, 10 ans d'écart. Ouais, et ouais. cette relation, vous l'avez créée de complicité récemment ou ça fait longtemps que...
Ça fait longtemps, on a toujours été complices, mais c'est vrai que ça s'est, accentué depuis qu'elle vit à Paris, et puis depuis qu'elle fait des blagues aussi, qu'elle s'intéresse au monde de l'humour. Elle était journaliste, maintenant elle est journaliste humoriste. Quoi.
Ouais.
Et, mais je crois d'ailleurs que tout ce qui est podcast, tout
elle
ça,
adore.
Elle adore, ouais, ce mélange d'interviews, de vannes, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment son truc. Sophie Marie Larouche, c'est une de ses idoles.
Ça et fait trois fois que tu me mets en rivalité avec...
Non, pardon, je voulais surtout pas faire ça. Et c'est juste qu'en fait, elle est venue le lendemain du jour où t'es venue. Et je sais, j'ai pas eu le temps de parler avec elle.
Elle est
parce
venue
que je
le lendemain
de la représentation.
Oui, donc et dans ton souvenir, tu m'as remplacé.
Je suis désolé, mais en fait, j'ai écouté en plus une vingtaine de ses podcasts et j'en ai écouté plein
confonds.
Des tiens.
Non, bah c'est bon, les siens ont remplacé les miens. Elle sera là, si tu veux, à mon plateau le samedi 2 avril, si tu veux la revoir.
Je viendrai.
Elle est très forte, ses podcasts sont super.
mais c'est pour ça que je te posais la question du public. C'est que là, le dernier que j'ai écouté, il était en public. Et je me disais que
c'est... Oui, c'est parce que tu nous confonds. C'est parce que SML, elle fait des enregistrement public.
Rien à voir.
Mais oui, c'est vrai qu'elle est plus, je pense qu'elle est quand même plus woke que moi, SML. Moi, le risque de ce podcast, c'est que c'est parfois...
Sur le mot woke, je suis perdu. Je suis désolé.
Ah ouais ?
Ouais, woke, je suis perdu. J'ai raté le train. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse. Je suis mal. Je suis tellement désolé. Woke, je comprends rien.
C'est vrai ?
Je comprends pas. Tout le monde rigole. Tout le monde se fait des clins d'œil avec ce mot. Il y a 18 vannes à la seconde sur
alors,
le
faut
mot
pas
woke.
Que tu confondes avec poke. Est-ce que tu
ça,
sais ce que
oui,
c'est,
poke,
les pokés? Les pokés, tu
et
sais,
encore,
le
je
riz
sais
vinaigré
vaguement.
Avec du saumon, et c'est vachement à la mode, et tu peux mettre aussi des edamame.
Ah, moi, je pensais que poke, c'était un truc sur les réseaux aussi.
Ça, c'est fini. Je pense que tu peux plus poker.
Le pokeball, je connais les pokeballs.
Poke, je crois que ça, ce à quoi tu fais référence...
Parce que moi, woke, je vois ça, je vois vraiment la poêle et...
Oui, le woke, non, c'est pas un truc pour faire revenir des nouilles.
Okay.
C'est, et poke, je pense...
Tout vient
que
de la bouffe, en fait.
Ouais. Tu sais, poke, c'était pas le truc sur Facebook où tu pouvais juste, genre, poker quelqu'un?
Mais oui, pour moi, c'est ça, poker.
Attends, ça fait longtemps. C'est vrai que ça, c'était vraiment le truc un peu lâche de... c'était vraiment le début de l'enfer de ce que deviendraient les réseaux sociaux, quoi. Où tu commences à te faire des films sur qui regarde ta story. Toi, tu regardes qui regarde tes stories?
Qui regarde mes stories? Oui, oui, je regarde.
Bah
ouais, ouais, ouais. Oui, si, je regarde, ouais. Je regarde le nombre, quoi.
Bah, ah ouais, le nombre. Est-ce
je
que tu regardes...
Je comprends pas pourquoi il baisse, mais... des fois. Je
ah
sais
oui,
pas.
Bah, ça, c'est la vie.
C'est les algorithmes, les trucs. Hein.
Et tu... Bah, ou alors...
C'est encore algorithme, c'est encore...
Oui.
Ok, ça va.
Mais SML, elle sera d'accord. Donc SML, elle est venue te voir au théâtre le lendemain soir.
Je sais pas si ça lui a plu. J'ai l'impression que son retour était poli. Et...
T'as vu comment t'es quand même autodestructeur.
Ah merde, je suis saboteur. Ouais, ouais.
Parce que tu parles d'elle alors que t'es même pas sûr qu'elle a aimé ton spectacle. Et alors que moi, qui ai adoré ton
non,
spectacle.
Non, mais vraiment, je ne pensais pas une seconde qu'il y avait une rivalité potentielle. Mais maintenant
non.
que j'y pense, je dis que oui, vous avez tous les deux un podcast qui a du succès. Donc forcément...
non, mais elle est beaucoup plus connue que moi dans le podcast.
Ah,
ça
ouais,
fait longtemps
ouais.
que À bientôt de te revoir, ça existe. C'est À bientôt de te revoir, c'est l'un des podcasts français les plus écoutés. Avec La Poudre, Les Couilles sur la Table. C'est
ah oui, Les Couilles sur la Table, je connais bien.
Ouais.
Ouais, c'est comme ça que je suis arrivé aux émojis cœur et étoiles.
En posant tes couilles.
Grâce à ce podcast-là.
Sur la table. Ah bah ouais, 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 il y en a plein d'épisodes qui sont... L'épisode avec Virginie Despentes, tu l'as écouté ?
Oui.
Ouais, formidable.
Ouais, ouais, très très bien.
Et comment ça se manifeste dans tes relations amoureuses de t'être déconstruit ?
écoute, c'est pas plus simple. Bah, ça a beaucoup changé les nanas.
Ouais.
Et... mais je me sens pas tant déconstruit que ça.
Mais est-ce que tu avais beaucoup à déconstruire ? Tu penses que tu étais dans la masculinité toxique avant ?
Non.
Je t'ai jamais vu comme un macho de base.
Non, je crois pas que j'étais dans la masculinité toxique. Mais je crois que comme tout le monde, j'ai appris à séduire dans cette logique où, il faut insister, il faut forcer un peu. Voilà, on a été.
T'as arrêté de violer, quoi.
Voilà, j'ai arrêté de violer. C'est ça, c'est récent. Hein.
Depuis MeToo ?
Depuis les emojis. Je me dis, bon, les emojis cœur et t'arrêtes de violer. Je crois qu'on a quand même appris la séduction, en tout cas moi, dans ma banlieue parisienne, on a appris la séduction. Il faut insister, c'est normal que la fille dise non, et puis on insiste, puis d'un geste à l'autre, on gagne du terrain, voilà. Et ça, c'est vrai que...
T'étais un peu lourd, t'as pu, à une époque, être un peu lourd
J'étais insistant, quoi. J'étais insistant, mais ça fonctionnait.
Ah ouais, c'est tellement sincère de le reconnaître.
Oui, je sais pas. Ouais.
T'étais insistant.
Mais c'est aussi parce que je sentais que les filles étaient aussi éduquées.
À résister.
J'ai plus, quelqu'un a dit ça. A dit, on a été élevés comme des agresseurs dans la séduction, et les filles ont été élevées comme des victimes. Et c'est, je pense que c'est, il y a une vérité, et en effet, ça se déconstruit. Et notamment dans les podcasts type Les couilles sur la table, moi je me souviens d'avoir entendu un mec. Je crois qu'évidemment, écouter des femmes parler de la déconstruction, c'est hyper intéressant, mais il y a toujours un fond de méfiance. C'est horrible de
mais
dire ça.
Mais
c'est dit ! Non, mais c'est comme s'il y avait quand même toujours cette rivalité homme-femme, et il y avait un fond de méfiance. On disait, ouais, mais. Elle ne sait pas, moi, ce qui me traverse en termes de désir. Elle n'est pas dans mon corps.
Ouais.
Mais je me souviens d'avoir entendu dans ces podcasts des hommes parler.
Ouais.
Et ça a été une vraie révélation parce que, justement, des hommes dire « Là, j'ai été agresseur. » Tu fais « Oh putain, qu'est-ce qu'il va balancer comme truc et tout ?» Et puis après, il raconte l'anecdote, le type, et dit « j'ai fait un couchsurfing. et puis, je lui ai demandé de... Si elle voulait bien qu'on couche ensemble une première fois. Puis on a dormi, elle n'était pas très bien dormie. Puis le lendemain, au petit déjeuner, j'ai redemandé, quoi. Je suis un agresseur. Mais mine de rien, moi, ça m'a touché. Je me suis dit, oui, c'est vrai que de poser ce mot-là, qui est dur, après, il faut faire gaffe, quoi.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas nous culpabiliser de proposer un projet sexuel. Parce que ça, quand même, moi, c'est ce que j'essaie de me dire.
Ouais.
Tu vois, parce que parfois, on n'ose plus, on n'ose pas. Oh putain, mon Dieu, je suis vraiment un beau... On n'ose plus, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire.
En fait, finalement, moi, je pense que je me suis assez peu fait draguer parce que j'ai toujours dragué moi.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais, moi, en fait, j'ai toujours été, tu vois... assez cash, assez... tu veux faire l'amour ? Donc finalement, j'ai pas... Et c'est vrai que quand les mecs me draguaient, est-ce que ça a fonctionné ? Non, moi, c'était toujours moi qui ai potentiellement pu être l'agresseur, quoi.
Ah oui ?
Ah ouais, je pense que...
Mais c'est vrai que nous, on n'a pas aussi été habitués à ça.
Non ?
Moi, je me souviens d'une nana dans une soirée qui m'attrape au collet.
Ouais.
Qui me dit tous les deux un baiser ce soir.
Ouais.
Ben...
Ça t'a refroidi.
Ah, mais j'ai pas pu.
Ouais, ouais.
J'ai pas pu. Aujourd'hui, je pense que... Tu vois, ma déconstruction fait que...
Tu serais prêt.
Nana qui m'agresse...
Tu serais prêt...
J'accepte l'agression, quoi.
Mais cela dit, moi, quand je dis « Est-ce que tu veux faire l'amour ?» j'ai déjà eu... Tous les signaux sont au vert. C'est juste le dernier... c'est rare que... J'ai jamais quelqu'un où je me disais « Il n'y a pas de... » Tu vois, à dire « Toi, moi, là, tout de suite... » Enfin, tu vois, c'est pas ça, mais c'est que bon... j'ai jamais, par contre, attendu... Je sais pas, comme j'étais toujours un peu en kiff sur les mecs timides... puis je sais pas, ça doit être une forme d'ego. Je me dis, bah, de toute façon, est-ce qu'il a mieux à faire ? Enfin, tu vois, je pense qu'il y avait. Je sais pas, c'est très bizarre. Je pense qu'il y a un truc de surconfiance et en même temps bizarre, de l'inverse, de manque de confiance. Mais je me suis quand même toujours dit, allez, go ! Et.
Ouais.
Non, mais parfois.
Mais toi,
si...
t'es conquérante aussi dans ton tempérament.
Et ça marche pas très bien quand je me fais conquérir. Est-ce que ça me dégoûte en général ? Je sais pas pourquoi j'ai pas le. Mais ouais, non, mais je pense que c'est très, très fucked up. C'est que. C'est que je me dis, il est con lui de s'intéresser à moi. Enfin, je sais pas.
Ah ouais.
Ouais, je me dis, il a pas mieux à faire. Et résultat, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que le désir parte de moi, sinon je méprise un peu. Je me dis, il fait rien de sa vie lui. Enfin, tu vois. J'ai l'impression que moi, si c'est quelqu'un qui me regarde pas encore, qui est pas encore, tu vois, je fais exprès dans le podcast d'inviter des gens à qui j'ai presque jamais parlé en général, tu vois, que je connais pas bien. Parce que sinon, ça y est, c'est déjà vécu, quoi.
Ouais,
oui, tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Et c'est vrai que les mecs qui m'écrivent, je suis en mode, oui. Non, sauf si c'est... mais bon, en général, ouais, non, c'est pas... tu vois, je sais qu'il y a des filles qui racontent, il m'a chassée pendant des mois et c'est comme ça que ça a fonctionné. Moi, ça me fait flipper.
Ça t'est jamais arrivé ?
Ça m'est arrivé... Il y a quelques...
De te laisser séduire au fur et à mesure par un amoureux transi. Si, forcément, non.
Non.
Rosa.
Je te jure que non, François.
On va commencer.
Toi, c'est quoi le plus que t'es fait pour chasser quand t'étais dans ta période agresseur?
Oh mon Dieu, non, mais c'est terrible de dire ça, mais... qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait des trucs un peu ridicules, romantiques. J'en ai fait pas mal, adolescent.
Ouais.
J'avais une idée de la séduction qui était un peu ringarde déjà, quoi. On en revient toujours à ça. J'étais amoureux d'une fille. Donc, j'étais dans le 78 et j'étais amoureux d'une fille qui était dans un patelin à une petite demi-heure à pied. Et j'ai mis un semblant de costard que j'ai dû emprunter plus ou moins à mon père. J'ai cueilli des fleurs sur le trajet. Et je lui ai chanté une chanson d'Aznavour quand elle a ouvert la porte.
C'est trop mignon.
Voilà.
Et elle, ça lui a plu ou pas?
Moyen. C'était peut-être un peu trop, quoi.
C'était quelle chanson?
C'était un peu trop crooner, cabot. Mais ouais. C'était en blague, évidemment.
Ouais.
C'était en demi-blague. Et j'ai une bonne anecdote pour toi après. Ça va te plaire, ça. Et donc, bon, écoute, ça a fonctionné suffisamment pour qu'on se retrouve sur son canapé à s'embrasser. Et elle avait des seins magnifiques. Et j'étais hyper heureux d'accéder à cette poitrine. Et je pensais qu'il n'y avait personne dans l'appartement.
Oh merde.
Et donc on s'allonge sur le canapé. Je pose une main sur son sein. C'est vraiment fébrilité. J'avais quoi, 16-17 ans, quoi. Fébrilité totale. Qu'est-ce qui va se passer, machin. Je relève la tête. Et là, au-dessus de la table basse, je vois un type avec une barbe, la main tendue. Excuse-moi. Et qui ramasse un paquet de clopes. C'était son grand frère qui avait 35 balais et qui vivait toujours à l'appart et qui venait chercher son paquet de clopes, quoi, sur la table basse. J'ai été traumatisé.
Mais c'est fou que tu puisses encore bonder.
Je me suis réveillé pendant des nuits après avec un sentiment de honte, des bouffées de honte.
C'est horrible, François, ce qui t'est arrivé. T'imagines le flou.
Je savais que ça te plairait, ça.
Ah ouais, ça me plaît énormément. Ça veut dire qu'au moment où t'accèdes, déjà, est-ce que c'est la fille du costard?
Oui, c'est la fille du costard. C'est le même jour.
Non, mais c'est...
C'est le même jour du costard. C'est vraiment...
C'est dingue, parce que...
Enfin, dans mon souvenir.
Il y a une stratégie, il y a un costume, il y a des accessoires, des fleurs, et il y a même une ritournelle. Donc il y a un chant, il y a vraiment une vraie perf qui fonctionne, tu vois.
Ouais.
Donc,
une parade
amoureuse, vraiment là on est sur tous les, tu sais, les oiseaux et tu sais, toutes les couleurs. Et ça fonctionne hyper bien sur la femelle. Vous allez dans le salon, là, est-ce que ces seins, ils étaient très gros?
Ils étaient pas mal, ouais.
Ah ouais. Donc ça, c'est le summum.
Oui, puis surtout, c'est surtout une période où tu couches pas comme ça, quoi.
Oui, puis à 17 ans, les filles, alors certaines ont des gros seins, mais pas toutes, pas encore. Enfin, si, celles qui ont des gros seins, elles les ont depuis 14 ans.
Ouais.
Mais c'est...
Ah ouais, ouais.
Bah, je pense que certaines, il y a des filles, tu te souviens pas, les filles au collège qui sont pubères très jeunes, les pauvres, qui portent toujours des énormes pulls parce qu'elles ont honte d'avoir une gigantesque poitrine.
Oui, oui, c'est vrai.
Et donc, elle a une grosse paire de loches. Toi, mais bien sûr, érotisme maximal.
Maximal.
Maximal. Et là, sous la table basse, un homme barbu.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est freudien, quoi.
Ouais.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Le grand frère.
Le grand frère. Pas le père, le grand frère. Le grand frère. Frère. Le
tu
grand
sais, frère. Protecteur de...
Bah, complètement. Bah, il t'a coupé la...
Bah, il me l'a coupé entièrement.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est pour ça que...
Et elle, elle était comment à ce moment-là?
Elle, elle, elle était pas très bien, mais c'est... moi, j'étais bien pire, dans un état bien pire que... Elle me rassurait en disant, mais il s'en fout.
Ouais.
Tu vois. Et moi, je me suis relevé immédiatement.
Ah ouais.
C'était compliqué de reprendre
les
activités.
Ah ouais, je comprends.
Ouais, ouais. Mais on a été quand même ensemble quelques temps avec cette fille.
Ah ouais.
Ouais, ouais, je l'aime beaucoup. Et... Mais on était vraiment couple de banlieue parisienne. On allait au Leclerc.
Ah ouais.
J'étais jogging, tout ça. Et je me suis vu un peu, tu vois, me marier, m'installer près du Leclerc.
Ouais.
Et continuer à faire mes courses jusqu'à la fin de ma vie de cette manière-là. Enfin, en tout cas, j'avais un peu cette
ouais.
image-là qui n'était pas...
Est-ce que c'était quoi comme banlieue?
C'était dans le 78, dans les Yvelines.
Dans les Yvelines.
Ouais, banlieue tiède, tu
banlieue
vois,
tiède.
Ni chaude ni froide.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que tu fais hyper bien l'accent racaille?
Ouais, parce que je voulais, c'était un objectif de vie.
Ouais, le maîtriser.
Quand j'étais... Non, pas de savoir le faire,
ouais.
d'être une racaille.
Ok.
Ouais, ouais. Moi, je suis un petit bourgeois, mais qui a grandi avec des prolos.
Ouais.
Donc, socialement, j'ai un peu le cul entre deux chaises, tu vois.
T'aurais aimé être... Pourquoi petit bourgeois, tes parents faisaient
bah,
quoi?
Enfin, disons que... Oui, ma mère a toujours bien gagné sa vie. Mm-hmm. Et puis, quand même, de chaque côté, c'est issu de l'aristocratie.
Ouais, t'as une particule. Oui, c'est une vraie particule.
Ouais,
c'est pas acheté à Barbès.
Non.
Ouais. De Brouwer.
Non, d'ailleurs, je l'aurais même bien revendu, moi.
Ouais.
Parce que je l'assumais moyen. Quand,
ouais.
En fait, quand j'étais justement dans le 78, je ne le ressentais pas parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres particules. C'était une particularité. mais après, quand j'ai commencé le théâtre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de particules, que c'était cette fameuse, tu vois, comment pourrait-on dire, hégémonie bourgeoise
ouais, bien sûr.
Dans le théâtre. Et qui d'un coup, j'avais l'impression de participer à ça et je ne me reconnaissais pas en même temps. Parce que j'ai commencé en faisant de l'impro avec des types comme Alban Ivanov, par exemple. C'était un copain d'improvisation. Dans le 78, mon idole, c'était Jamel Debbouze. C'était tous ceux qui avaient réussi par le biais de l'impro. Donc, c'était pas...
Ouais.
Donc, du coup, c'est pour ça que les gens sont souvent surpris quand ils m'entendent faire le lascar, parce qu'ils me disent...
Ah non, c'est tellement marrant. Mais est-ce
c'est
que...
C'est vrai que j'ai... Parce que j'ai voulu... Et ouais. adolescent, j'ai parlé comme ça, vraiment, tu vois. Je parlais comme ça...
Tous les jours?
Pour essayer d'être crédible et tout, un peu, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, j'ai lâché. Et puis,
ouais.
Je me suis dit... Et puis après, j'ai fait du théâtre, j'ai commencé à étudier les textes. Et puis, petit à petit, ça te forge...
Ouais, une autre
ça.
Voix.
Une autre manière, une articulation... Qui...
Puis il y en a plein qui prennent l'accent
avec cette espèce de
ouais mais toi tu le joues
d'apparence bourgeoise
mais dans le stand-up il y en a plein qui prennent l'accent lascar alors que ils sont parisiens mais parce que c'est pour se donner un style stand-up il y en a plein
ouais
mais toi tu sais jusqu'où elle remonte ta lignée
alors ouais le premier de Brouwer à être arrivé en France il accompagnait Marie-Antoinette.
C'est ça.
Enfin, c'est la légende.
Ouais.
Ça vient de... Les deux Brouwer, ils viennent de Bavière, de Vienne. D'Autriche, pardon. Et donc, il accompagnait... La légende dit qu'il accompagnait Marie-Antoinette. J'avais même fait une improvisation que je n'ai pas gardée pour le spectacle. Là-dessus, quoi. Et d'un coup, je faisais mon aïeul qui accompagnait Marie-Antoinette, qui était une ado vénère.
Ouais. Voilà. Bah, si ça peut te rassurer, eh ben moi, je remonte plus loin que toi. Parce que je suis descendante de Saint-Louis.
Ok.
Du côté du père de ma mère, ouais. Okay. C'est fou, hein. Et je l'ai appris cet été.
Ah ouais.
Ouais, ouais, parce que ma mère a honte de son côté catho, donc je savais qu'on avait des, bah tu vois, un côté des corsaires, des vikings, tu vois, parce que c'était breton et un peu qui sont allés ensuite à Nice. Mais je connaissais surtout les origines du côté de ma grand-mère. Je connaissais les origines juives, mais qui sont très anciennes aussi du côté de ma mère, en fait. Des deux côtés, c'est très ancien. Mais je connaissais celle de sa mère. Donc ma grand-mère maternelle, c'était c'est des Salvador Cohen qui ont été expulsés d'Espagne par Isabelle la Catholique, qui sont allés en Avignon, puis qui sont allés en Alsace. Donc voilà, donc c'était une des familles israélites françaises, tu vois, et juifs français, quoi. Et son père était... Et donc en fait, cet été, je suis avec ma mère, parce que moi j'adore partir en vacances avec ma mère. Et je sais plus, on se fait un week-end, on part. Non, on était. Attends, non, c'était pas cet été, c'était en. C'était quand ? C'était en mai. On s'est fait des vacances. On est allé à Saint-Malo. Et elle a son cousin Jean-Tou. Ah, tu vois, ça, c'est quand même les noms apportent. Tu vois, c'est ma tante, c'est Monique. J'avais envie de le dire quand même. Tu vois, quand tu donnes pas les noms,
Ça renseigne beaucoup.
Ça renseigne énormément.
Quand tu choisis dans une fiction les prénoms, c'est un peu.
Mais
un
évidemment, c'est son cousin Jean-Tou. Bon, je m'en fous, il écoute pas le podcast. Et bah, il vient nous chercher en voiture, et puis on va, ils ont une très jolie maison, donc proche de la mer, pas loin de Saint-Malo et tout. Alors, enfin, je donnerai pas tous les indices sur cette famille, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que fan de l'héritage, la généalogie. Et là, je vois dans le salon, ils ont une belle maison, c'est pas des gens richissimes, hein, mais ils ont une belle maison. Et je vois un monsieur style un roi, tu vois, genre comme les tableaux que tu vois dans les musées. Je dis donc, de l'aplomb. Il dit, ah oh, bah c'est notre ancêtre.
Ah.
Et donc je dis, ah bon. Et là, je dis, mais comment ça? Et en fait, il me dit, bah tiens, regarde. Et il me montre l'arbre, il dit, on descend de Saint-Louis. Je dis, mais maman, pourquoi tu me l'as pas dit? Elle me dit, bon, on s'en fout. Je dis, bah non, on s'en fout pas. Je vais me la péter tous les jours. Je dis, et en fait, après, j'ai juste dû envoyer un texto à mon père pour lui dire qu'il m'a dit qu'il était antisémite. Je dis, on s'en fout. Du nombre de juifs qu'il a tués. C'est Saint-Louis quand même. Mais oui, c'est marrant. Oui, bon, il était antisémite. Il était. Ah, écoute, déjà, il était roi. Roi de France. Donc non, puis ça me fait marrer justement qu'il y ait déjà. Et l'histoire s'est répétée. Puisque ma grand-mère, maternelle, elle était avec un pétainiste. Donc il y a toujours une histoire dans ma famille de juifs et d'antisémites qui s'épousent et s'aiment et se détestent, tu vois.
C'est incroyable, il faut peut-être que tu te maques avec un antisémite.
Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Tu sais, c'est toujours quand ça te passe, quand un mec justement veut pas recoucher avec moi, dans ma tête, je me dis, pfff, t'es antisémite. C'est la réponse facile. Maintenant, je dirais, oh, bon, il aimait pas Saint-Louis, tu vois. Et donc voilà, donc en fait, je t'accueille dans la noblesse, mais
sympa.
Ouais.
Sympa.
Mais oui, donc oui, je comprends le conservatoire. Et là, le spectacle, ça se passe bien, t'es heureux?
Ouais, je suis très heureux. Après, c'est comme je t'ai raconté, ça a été un changement de création un peu dingue, parce que écrire pendant 3 ans une pièce et puis décider de jouer autre chose quelques semaines avant la première, c'est un saut dans le vide, quoi.
Ouais.
Pour moi qui a besoin, qui aime bien travailler très en amont, réfléchir, construire, structurer, d'un coup de me dire, bon, là, je vais plonger... Bon, ça reste ce que je sais faire, à savoir structurer des compositions. Mais il y a quand même une prise de risque que je n'analyse pas encore complètement. Tu vois, par là, je commence à faire des interviews pour parler du spectacle et je ne sais pas trop encore quoi raconter. Je raconte un peu de la merde. Non, mais parce que je n'ai pas beaucoup de recul.
Mais j'ai réfléchi, c'est un projet de cœur. Peut-être que c'est à cause du titre aussi. Les performants, est-ce que ça ne fait pas trop macroniste?
Tu veux dire celui que j'ai pas joué ?
Celui que t'as pas joué, parce que moi je pense que celui que t'avais préparé, il y a plein d'idées quand même intéressantes qu'il faudra... Tu vois, on en avait parlé dans le métro après ton spectacle.
Celui que j'ai pas fait, tu penses qu'il y a des idées intéressantes ?
Là, ouais. Tu confonds avec Sophie-Marie Laroui. Rappelle-toi, je suis venue un mardi.
Attends, non, ça me dit rien. Ah si, oui, juste avant Sophie,
voilà.
La veille. Okay.
Et tu m'avais dit des trucs sur ce spectacle qui quand même, moi je trouve, sont intéressants, mais je pense par contre le titre va pas. Les performants
ouais. Tu trouves ça trop...
macroniste. Tu vois,
oui, mais il y avait une dimension critique. Les performants, il y avait cette dimension un peu théâtre public, si tu veux. Mm. Et c'est aussi de ça que je me suis détaché avec Rencontre, avec une illuminée. C'est qu'il y avait quand même... Il y a dans le théâtre public, je me rends compte de plus en plus, il y a quand même une volonté d'amener les gens. Tu sais, il y a toujours ce truc, on dit... Ce spectacle a voulu questionner.
Est-ce que ça, tu peux le refaire, genre avec l'accent lesca, genre redire?
En fait, je vais t'expliquer comment ça se passe dans le théâtre public. Je vais t'expliquer direct. Dans le théâtre public, il y a une espèce, si tu veux, il y a une exigence intellectuelle qui est inhérente à la pratique du théâtre public. Donc ça, c'est la base. Tu te présentes à un directeur de théâtre public qui va éventuellement subventionner ton travail. Il faut que tu sois, si tu veux, Tu seras à la hauteur sur le plan intellectuel. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une volonté de questionner la société. Donc il faut arriver, on dit... Non mais c'est vrai...
Tu le fais tellement bien.
Il y a cette dimension-là.
Qui en fait, toi, te saoulait.
Ben, en fait, donc je me sentais un peu embarrassé, j'avais envie de plus de légèreté. Et c'est normal parce que j'ai créé ma compagnie et puis j'ai dû passer toutes les étapes pour essayer de convaincre, trouver de l'argent institutionnel. Et en fait, j'ai l'impression que le projet s'était alourdi de toute cette théorie, quoi, de ces dossiers, de ces tentatives de convaincre. Et puis évidemment aussi, le désir de faire ce spectacle s'était un peu dissous dans le confinement. Quoi, parce que pendant un an et demi, deux ans, tu reportes, t'es plus la même personne. Et vraiment avec les performants, et je crois que le titre, il était bien pour ça. C'est que j'avais envie d'en mettre plein la vue. Il y avait de la musique électronique qui devait être celle de Rhône, qui est un type que je connais depuis très longtemps. Il devait y avoir de la vidéo. Enfin, toute cette dimension qui était aussi liée à un peu des complexes que j'avais vis-à-vis du théâtre subventionné et de ces outils-là que je voulais utiliser. Et j'ai fait vraiment complètement sauter tout ça avec Rencontre. Parce que Rencontre, il est né d'un hommage que j'ai rendu à une amie, Estelle Meyer, qui est chanteuse et comédienne. Et donc, du coup, c'était vraiment... les prémices de ce projet, c'était vraiment dans un cadre très familial, très, très, très ami. Et du coup, je me suis lâché complètement. Et puis, c'était, comme je parlais d'elle, forcément, j'allais parler de moi. C'était logique. Et de notre rencontre. Et voilà.
Et t'avais envie de jouer une femme aussi, non ?
J'avais envie de jouer une femme. Ouais. Et puis dans les performants, il y avait ça. Il y avait plein de mecs qui avaient tous des problèmes avec leur queue.
Ça, moi, j'aime beaucoup dans le spectacle. Quand ils imitent ton zizi.
Ouais, ouais.
Ah, c'est...
Mais les performants, quand dans le spectacle, je joue la scène avec le metteur en scène qui dit ça ne parle que de beat ton spectacle, c'est une vraie scène qui s'est jouée avec un de mes co-auteurs qui m'a dit ça ne parle que de beat ton spectacle. C'est vrai que les performants, ça parlait beaucoup de beat.
Oh, j'aurais bien aimé le voir quand même.
Non, mais il y a des bonnes scènes de beat.
Ah bah j'adore ça, c'est-à-dire des scènes de beat.
Mais que je réutiliserai, je sais pas comment.
Mais oui.
Mais peut-être j'en ferai quelque chose. Mais c'est vrai que là, quand je me suis dit je vais jouer une femme, j'ai eu l'impression de passer un cap, parler de la déconstruction, tout ça. Je me suis dit, finalement, là, je suis dans un spectacle qui raconte des problématiques, qui met le nez des spectateurs dans des problématiques sur la masculinité, machin. Bah, l'issue, finalement, c'était peut-être de jouer une femme, quoi.
Ah ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu as une fascination pour le stand-up. Moi, je verrais bien ton prochain spectacle comme la vie d'un... Et en plus, tu ressembles un peu physiquement à Jim Carrey. On te l'a déjà dit ou pas ?
Ouais, on me l'a déjà dit.
Ouais. C'est tellement, tellement fort. Tu connais les premiers stand-up de Jim Carrey ?
Ouais, j'ai vu des images, je ne connais pas bien.
Mais c'est amour. C'est le génie de tous les temps. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis tellement... Et ses premiers stand-up, tu vois déjà tellement un univers comique fou. Enfin, moi, il me fait derrière mon ordinateur éclater de rire à haute voix.
Ouais.
J'ai trouvé des vidéos qui étaient et en même temps d'un charme. Et qui était tellement sincère sur... je pense que... Tu vois, c'est rigolo quand même, parce que ce mec se prenait des bides énormes au début. Il jouait au Comedy Store.
Ça
ne pas. Ah si, ça ne marchait pas du tout, parce qu'en fait, il faisait un peu de... Il faisait de l'absurde, il faisait des personnages, et puis d'un coup, il devenait violent. Et les gens ne savaient pas du tout comment réagir. Ça bidait. Et tu vois, tout le monde était plus dans un truc stand-up, quoi. Il allait au Comedy Store et il le raconte, tu vois. Il faut que tu écoutes un épisode où il va chez Marc Maron et même il pleure. Dedans, Jim Carrey en racontant... Ouais.
Marc Maron, c'est qui ?
C'est un grand podcasteur.
Ok.
Et il a un podcast qui s'appelle What the Fuck. Et il reçoit principalement des humoristes, mais aussi maintenant tout le monde. Il en est au 450e épisode. Et il y a des épisodes cultes, en fait, où d'un coup, il y a une telle... ça se confie tellement... Et il reçoit Jim Carrey, l'épisode est extraordinaire, et il pleure, et il se souvient de ses bides. Et c'est vrai qu'il était... C'est aussi un illuminé, Jim Carrey. Il s'était signé à lui-même un chèque de 1 ou 2 ou 6 millions, en disant « c'est ce chèque, j'ai cet argent », tu vois. Et il l'a eu. Enfin, il a eu des trucs comme ça. Et son père s'était fait licencier, il était au chômage, il buvait, donc il avait vu l'humiliation de son père. Il y avait un truc où il voulait énormément le venger.
Et puis surtout, son père a hésité à faire une carrière humoristique.
Oui, c'est ça. Son père était déjà humoriste raté. Et il récupérait vachement ça. Et ensuite, ouais, non, au Comedy Store, ça marchait pas
du tout.
Non,
pas humoristique, une carrière artistique. Il était
pas acteur.
Saxophoniste ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était très, très drôle dans la vie, saxophoniste. Il a renoncé à une carrière artistique pour être, oui, c'est ce qu'il raconte, pour être comptable.
Ouais.
Et puis, il a pas réussi dans la comptabilité.
Non, c'est ça.
Et Jim Carrey se dit, putain, quitte à pas réussir, autant pas réussir dans un truc qu'on aime. C'est vrai que c'est assez beau ça quand
ouais, c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. Et en tout cas, ouais, il a vraiment connu la pauvreté. Mais en tout cas, tu penses pas faire un personnage style Jim Carrey, genre la biographie quoi. Tu vois, avec les moments phares, tu vois.
La biographie de Jim Carrey.
Ben je sais pas. Tu
un
l'as
spectacle
vu
sur Jim Carrey.
J'en sais rien.
C'est pas con. Hein. J'y avais pensé un jour. Enfin, en tout cas, j'avais pensé à Jim Carrey comme personnage.
Tu l'as vu Andy Amy, le film sur Andy Kaufman
Bien sûr,
évidemment.
Jim et Andy.
Ouais.
Je l'ai vu 3 ou 4 fois.
Ouais, c'est un chef-d'œuvre.
Ça me fascine complètement.
Mais oui.
Et j'ai plein de théories là-dessus, sur ce documentaire. Parce que pour moi, il fait un chef-d'œuvre.
Mm.
Il a conscience qu'il réalise un chef-d'œuvre. Il faut savoir que derrière la caméra, c'est la femme d'Andy Kaufman, enfin l'ex-femme d'Andy Kaufman, qu'il est toujours, pendant tout le reportage, il est entiché de Bob Zmuda, le complice d'Andy Kaufman. Et je pense qu'il a complètement conscience que quand il prend sa petite voiturette, qu'il va chez Steven Spielberg, il est où Steven, machin, en faisant son personnage, enfin le personnage du personnage, il a conscience qu'il est en train de faire un happening extraordinaire.
Et il s'y perd aussi un peu, je pense, quand même. Tu crois pas? Psychologiquement, parce qu'il a quand même...
Oui, oui. Non, après je crois à cette nécessité d'être sur le plateau, toujours le personnage pour lui rendre hommage un maximum. Et à ce dialogue qu'il rapporte, qui est extraordinaire, où il dit, le type l'appelle, il dit, écoute, il faut que je parle à Jim. Laissez-moi parler à Jim. Et Jim Carrey répond à ce grand metteur en scène, je peux faire une imitation.
Ouais.
C'est possible, je sais le faire. Si demain je viens, je fais une imitation, si tu veux. Ça, je trouve ça extraordinaire.
C'est fou. Hein.
Et c'est vrai que moi, je me sens proche de lui dans cette... En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce truc physique et puis dans cette capacité à imiter, dans cette névrose de la composition. Mais voilà, mais je n'ai pas le dixième de son talent.
Bah, pourquoi tu dis ça?
Bah, parce que c'est vrai, il ne faut pas déconner non plus. Ça se saurait si...
Ah si, je pense... Franchement, François, tu es l'un des meilleurs acteurs de ta génération, vraiment. Oh, je pense que si, c'est vrai. Je n'ai pas vu beaucoup des grands acteurs comme toi. Tu sais quoi, Louis Arène m'avait fait une forte impression quand je l'avais vu à un atelier d'élèves du conservatoire. Sur scène, il faisait un personnage et c'était une présentation et je m'étais dit oh, waouh, c'est le meilleur acteur que j'ai vu sur scène. Je trouvais ça un génie.
Mmh.
Donc Louis Arène m'avait fait cet effet-là.
Bah, Louis Arène, c'est mon grand complice.
Ouais.
Et c'est vrai, quand je l'ai vu au conservatoire, il jouait une scène des Marches du Palais de Cobert chez André Séverine et quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit mais j'ai jeté mon dévolu sur lui. Je me dis on est de la même famille, il y a quelque chose. Et en même temps, on a fait près de 10 spectacles ensemble.
Mmh.
Et c'est très intéressant ce qui s'est passé sur la transition, les performants rencontrés avec Inilluminé, parce que aussi on s'est rendu compte qu'on s'était affirmé dans nos sensibilités, chacun de notre côté. Lui, il est pas du tout, il a rien contre, mais c'est vraiment pas son truc, le stand-up et l'humour. Et quand c'est trop léger, il s'y retrouve plus. Et rencontre avec Inilluminé, il y avait justement une volonté, ce que je te disais sur le théâtre public, à une volonté de se défaire de cette injonction intellectuelle et d'aller vers quelque chose de plus léger.
Mmh.
Et il ne m'a pas suivi sur Rencontre. Quand je lui ai raconté le pitch, il m'a dit « Ah, pour moi, ça ne fait pas un spectacle. » Et on s'est séparés pendant ce mois. J'ai travaillé avec un autre co-auteur qui s'appelle Jean-Luc Gaget, avec qui j'ai écrit un scénario pendant le confinement. Et après, il est revenu sur la dernière semaine et il m'a vraiment mis en scène... Alors qu'il ne croyait pas, entre guillemets, au projet dans le texte, à l'écriture du projet.
François, à un moment, tu as voulu être sexologue.
La transition.
Tu m'as écrit ça par texto récemment.
C'est vrai, c'est vrai.
Est-ce que je suis devenue un peu ton manager agent?
Non, en fait, j'ai eu pendant le confinement, comme je pense beaucoup de comédiens,
petite crise existentielle.
Petite crise de vocation. Et j'ai fait tout un tas de trucs, de listes, de machins, et j'ai fait une liste des métiers potentiels. Mais j'aime bien faire ça quand même de temps en temps.
Mais tu serais
ouvrir hyper d'autres possibles.
Je suis sûre que tu serais un super sexologue.
Tu crois?
Ah ouais. ouais, je pense.
Mais j'ai été complètement fasciné par une interview c'était pas un podcast, une émission radio, je sais pas si on... il y a une différence, mais une interview d'un type qui est accompagnant sexuel, qui m'a bouleversé, mais qui m'a bouleversé aux larmes.
Pourquoi?
J'ai cru que j'avais l'impression que c'était Jésus, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est un type dont la vocation est de libérer
L'énergie sexuelle.
L'énergie sexuelle de gens qui sont handicapés, qui sont...
Ok.
Qui sont, voilà.
Ouais, ça c'est très touchant. Ouais.
Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Ouais. Et il en parle... Pour lui, évidemment, c'est pas une vocation, c'est pas... C'est une vocation, mais c'est pas un sacerdoce ou je sais pas quoi. Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Puis surtout les scènes qu'il décrivait. Il décrivait la scène avec un type qui a une blessure de guerre, qui a un moignon qu'on n'a jamais touché, que sa femme n'a jamais touché, et il va masser ce moignon. Tu vois, c'est pas qu'une affaire de...
Ah mais lui, c'est un sexologue qui pratique en plus, avec ses patients. Il les touche.
Ça lui arrive de faire l'amour avec ses patients.
Ouais. Ah ouais, là c'est un délire.
Mais il y a tout un processus.
Ouais, bien sûr.
C'est évidemment pas le cœur de la problématique, n'est pas la pénétration.
Non.
Mais parfois certaines patientes... Où c'est ce qu'elles attendent, c'est ce qu'elles envient, puis il y a des étapes pour y arriver, et lui, il faut qu'il ait envie aussi. Et... Enfin, c'est assez fascinant, c'est très controversé. Pour en avoir parlé avec des nanas qui disent oula, qui pensent tout de suite c'est un mec, il aime les freaks, c'est un déviant sexuel. Et quand tu l'écoutes, c'est tellement pas ça.
Ah non, moi je veux écouter ce truc, mais tu sais, au contraire, il y a des TDS qui travaillent, qui sont au contraire des saintes en fait, puisqu'elles vont baiser avec des gens handicapés qui sinon pourraient pas baiser, tu vois. Donc au contraire, heureusement, tu vois, quelque part, qu'il y a des gens, non ?
Bah oui.
Bah ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que je suis très curieuse de cette vidéo.
Je t'enverrai, c'est une interview radio. Mais attention, moi, je n'avais pas la vocation de faire ça. Je pense que c'est toute une formation au massage et tout ça. Moi, j'ai pas... Mais par contre, du coup, le côté accompagnant sexuel, mais dans le dialogue, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'avais mis dans ma liste. Mais comme un copain m'a dit cette chose très juste, il m'a dit parfois, rendre service aux autres métiers, c'est rester dans le sien. Et j'ai trouvé ça très juste. Et en effet, tous ces métiers que j'avais écrits comme ça, dans un moment pour essayer d'avoir des plans B, C et D, finalement, quand j'ai repris mon travail, j'étais à ma place. Donc voilà.
Ouais, mais c'est bien sûr. Mais j'aimerais bien quand même jouer avec toi un jour. Parce que finalement, dans le Comédie Plus, on n'avait pas de scène. On avait des moments différents.
Ouais.
Ça serait drôle. Alors, je ne sais pas si ça sera dans le cadre d'une émission ou même... Mais c'est vrai que ça serait marrant que tu joues mon sexologue et que moi, je sois la patiente.
Ouais,
ça fait très théâtre privé, hein. Je pense qu'il faudrait, mais ce serait tellement rigolo. En plus, ça serait léger, tu vois, donc en effet, ça coûte pas cher. Mais, une espèce de sexologue un peu gourou, une femme qui arrive, et qu'en fait, à chaque acte, il y a un renversement des pouvoirs. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se dit, mais qui a de l'emprise sur qui ? Tu vois,
ouais.
Alors au départ, il la soigne, et puis tu vois, puis c'est hyper intime, puis il lui donne des exercices, il lui apporte énormément, il lui dit, faut que vous vous roudez, je sais pas, elle arrive peut-être avec une expérience traumatisante, il lui dit qu'il faut que vous vous touchiez, en fait, déjà, on va repartir là-dessus. Puis ensuite, elle le fait, elle revient, elle lui raconte, puis il la prépare, lui dit, maintenant, peut-être qu'il faut que vous ayez une aventure avec quelqu'un. Puis elle a une aventure, puis elle la lui raconte en détail, c'est un monologue extrêmement détaillé. Tout d'un coup, on voit son visage, lui, se décomposer, et on sent qu'en fait, bah non, il est tombé amoureux d'elle, et ça lui fait quelque chose, il est jaloux.
Alors... C'est pas juste un sketch que t'as en tête, c'est
oui,
vraiment toute une
fiction. Pièce de théâtre.
Une pièce. C'est pas mal.
Une pièce de théâtre et une comédie dramatique, tu vois, avec des trucs qu'on se demande, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis ensuite, finalement, je sais pas, c'est elle. Puis à la fin, il baise, quoi, tu vois.
Mais ce serait une manière assez jolie et surtout raisonnable de cocher la case sexologue dans ma liste, parce qu'en fait, c'est aussi, quand tu y réfléchis, le fait de faire des listes de professions et de destins différents, c'est un peu la névrose de l'acteur aussi.
Oui.
Quoi. C'est d'avoir envie d'être 1000 personnes. Donc c'est vrai que ce serait une manière qui me plairait bien. Et puis en plus, ça m'intéresserait vraiment de bouquiner. Je pense que dans le vocabulaire du sexologue, dans les théories de sexologie, je pense qu'il y a vraiment des pépites à extraire pour écrire des super scènes quoi, et des super sketchs.
Grave. J'ai une copine qui m'a envoyé un jeu. Je vais te poser les questions. Un jeu justement sur le cul.
Je t'écoute.
C'est entre partenaires. Tu rentres et je suis en train de me masturber. Ta réaction?
Je rentre et t'es en train de te masturber.
Ta réaction?
Bah, je suis excité, je pense.
Ah ouais?
Ouais.
Si tu assumais à fond ta sexualité, sans peur, sans blocage, sans complexe, ta vie ressemblerait à quoi?
Waouh. Franchement, je sais pas. Oh.
Les moments où tu as été infidèle dans ta vie, quelles ont été les principales raisons?
Eh ben, franchement, j'ai pas été infidèle. J'ai été deux fois avec deux personnes en même temps, mais elles le savaient l'une et l'autre. Les deux fois.
Elles étaient d'accord.
Parce qu'en fait, à chaque fois, le schéma a été « ça ne va pas avec l'une » et on se dit « ce serait bien qu'on ouvre aux autres » et par contre, les deux fois, j'ai été le premier à trouver quelqu'un, à profiter de cette situation de liberté.
Mmh.
Et ensuite, l'autre m'a accepté la situation et est revenu. Et pendant un temps, pendant quelques mois, j'étais avec ces deux personnes. C'est épuisant, c'est super, mais ça ne peut pas durer longtemps. Et puis, franchement, ce n'est pas enviable comme situation. Moi, je préfère être avec une personne.
Petit questionnaire de Proust et ensuite on termine. Ah tiens, c'est quoi ta chanson préférée? Je m'étais dit, demander ça aux gens.
Je ne sais pas, il y en a plein.
C'était laquelle, celle d'Aznavour, que tu avais chantée à ta nana, ta petite copine?
Je ne sais plus, je me demande si c'était pas « Et pourtant ».
Ah ouais, elle est belle, « Et pourtant ». Et pourtant,
pourtant, je n'aime que toi, et pourtant.
C'est comme ça que tu hypnotises les gens, en fait, apparemment. C'est en faisant des la, la, la. La qualité que tu préfères chez un homme?
Je dirais une forme d'élégance. Mais pas l'élégance, évidemment, de la sape. Hein. Une espèce d'élégance du comportement, je crois. Ah, évidemment, c'est la qualité paternelle.
C'est vrai, ton père, il est élégant?
Ouais, mon père est un homme élégant et intelligent.
La qualité que tu préfères chez une femme?
La qualité maternelle. Ma mère est plutôt drôle.
Ah ouais?
Non, bah, en tout cas, je pense que pour qu'il y ait séduction, ouais, forcément, il faut qu'elle soit marrante, qu'elle ait de l'humour. Bon, après, j'associe ça vachement à l'intelligence aussi, donc c'est pas...
Le principal trait de ton caractère?
Passionné. C'est pas mal, hein?
Ouais.
Moi, je suis pas mécontent d'avoir trouvé ça. J'avais curieux aussi, mais passionné, c'est bien.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Qu'on ait toujours des trucs à se raconter et qu'on se comprenne. C'est un peu mystérieux quand même, ça. Qu'on se comprenne bien. Ouais.
Ton principal défaut?
L'orgueil, je crois. Ouais, je crois que l'orgueil... Enfin, tu vois, la zone sombre de l'exigence, tu vois. Le moment où tu dis, non, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ouais, je sais pas, l'orgueil, peut-être. Bon, il y en a d'autres. Hein. Le manque de légèreté aussi. Tu vois, par exemple, dans ce type de cadre, à chaque fois, je me maudis d'être trop sérieux.
Non, mais c'était super. C'était extraordinaire, ce podcast. François, t'as géré.
C'est vrai.
Mais oui, c'était formidable.
Je sens des aisselles. Hein.
Bah, c'est parce que c'est bien, tu t'es donné, c'était super. Ton occupation préférée?
Mon occupation préférée? Je crois que c'est inventer des projets avec des amis, des gens que j'estime humainement et artistiquement.
Ton idée du bonheur?
Ça, c'est trop dur. Non, mais en plus, idée du bonheur, il y a un côté concept philosophique qui m'embarrasse. Mais je peux... Par exemple, là, ce qu'on a décrit tout à l'heure, là, le dimanche, ça, c'est une des idées du bonheur.
Ouais.
Le brunch du dimanche.
Ouais.
Un peu crapuleux, avec quelqu'un que t'aimes. Une après-midi de printemps et tu fais une sieste, tu vas te balader sur les quais, en forêt, et que c'est l'amour fou, tu baisses, tu bouffes, tu profites du soleil et de la vie. Ça, c'est franchement une de mes idées du bonheur.
Tu sais, c'est la scène dans Peau d'âne. Tu vois,
bah oui.
Entre et puis ils courent, et puis ils boivent, ils mangent,
et c'est exactement
et puis
ça.
Ils dévalent dans la colline, oui. Et ensuite ils sont sur la comment ça s'appelle,
ils fumeront la pipe en cachette.
Ouais,
c'est merveilleux.
Et c'est une ce bateau, ce petit, ils sont à la fin sur un
sur une barque. Ouais.
Non, à Venise on appelle ça
Une gondole.
Ils sont sur une gondole.
Oui, c'est
vrai. Et il y a quelqu'un qui les amène et l'eau est bleue, je crois. Il y a les arbres, il y a plein de saules pleureurs et ils disparaissent dans la gondole avec l'eau. Ah ouais, ça c'était vraiment.
C'est merveilleux cette scène.
Ça c'est l'amour. Hein.
Ouais.
Ah ouais. C'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est le prince charmant et la princesse. En tout cas, c'est sûr que moi, c'est un truc que j'ai vraiment binge-watché sans savoir que ce terme existerait un jour. Quand j'étais petite, j'ai vraiment binge-watché Podane, quoi. Ouais.
Mais c'est vrai que comme... Il y en a plein d'autres aussi, des images du bonheur. Mais là, je pense par exemple, quand t'es venu voir le spectacle, quand j'ai fait une bonne représentation, je sens que les spectateurs sont contents. Et qu'on va comme ça, on fait une grande tablée où il y a des groupes différents,
enfin,
des gens qui se connaissent plus
beau,
ou moins.
Oh là là, quel enfer! Ce que tu détestes par-dessus tout.
Une forme de snobisme. Ça vraiment, ça peut m'exaspérer. C'est pas dingue comme détester. Enfin, c'est pas comme truc à détester. Il y avait des causes plus.
Ah non, mais justement, on s'en fout des causes. Moi, je suis comme toi. C'est aussi l'un des trucs que je déteste. C'est le faux snobisme. Enfin, ça me fatigue vachement. Ouais. Je suis pas. Moi, je me rends compte que
le snobisme rabat-joie,
ouais,
tu vois. Le truc
la manière de. Ouais, le prout-prout. Alors que moi, en fait, je me rends compte que je suis vraiment. Tu vois, à un moment, je pensais, avant d'avoir fait Avignon. Je me disais, oh là, je pourrais pas faire Avignon, faire des parades dans la rue en gueulant. Tu vois, j'avais ce snobisme. Et en fait, je me rends compte que je suis ça, en fait. Je suis un forain. J'aime tu vois, je suis un tribun de la plèbe. Enfin, tu vois, mais vraiment, mais pas au sens théâtre naze, mais au sens que, tu vois, là, le truc que je vais faire à Grande Contrôle, j'aurais dit, et si on commandait des kakimonos, des grands pré-rolls avec. Et ils étaient en mode, bah non, parce que, tu vois, ils étaient là, bah le lieu. Et j'étais en mode, oh, ok. Mais en fait, j'étais fière d'avoir ma petite demande de beauf, tu vois. Parce que je me suis dit, bah, c'est ça la vie. La vie, c'est pas de se dire, bah non, enfin, ça dépend de la charte graphique. Tu vois, je veux dire.
Je pense qu'on se ressemble là-dessus. Je pense qu'on a tous les deux un combat intime contre le snobisme.
Mais parce qu'on descend tous les deux des rois de France.
Exactement.
Donc, qu'est-ce que tu veux.
J'osais pas le dire non plus. Tu vois. Enfin, moi, c'est roi d'Autriche.
Oui, mais donc, on va pas s'inventer. C'est, tu vois, quand t'as pas besoin. Les snobs, c'est des gens qui ont besoin. En fait, en général, tu te rends compte toujours que les snobs, il y a un combat. Ils s'accrochent et s'ils perdent ça, ils ont plus rien. Ouais. C'est une lutte, tu vois. Vraiment de devenir, tu vois, nous, on n'a pas besoin.
Ouais, ouais.
Comment aimerais-tu mourir?
Ça, c'est une super question. Je trouve que cette question, elle est belle. J'ai une image d'un vieil homme sur un bateau à voile. Pas de moteur, écologie. Un vieil homme. Mais un vieil homme, pas une solitude, comment dire, subie. Quelqu'un qui a fait sa vie, c'est-à-dire qui a eu des femmes, des enfants, qui a eu 12 familles, disons qu'il y a eu une famille. Et j'ai cette image de ce vieil homme. Non, j'ai mieux. J'ai mieux comme idée de la mort. Évidemment, je pense que la moitié des hommes ont dû te répondre ça. Mais c'est ce chef d'État dont on dit qu'il a vécu César, il est mort pompé.
Ouais.
Ça, c'est extraordinaire comme mort. Rupture d'anévrisme, pas beaucoup de souffrance. Au comble de l'orgasme, après avoir vécu une bonne vie.
Je pense que ça te va mieux. Je pense que ça te va mieux la barque.
Ouais, c'est mieux.
Enfin, tu
mais
vois.
Attends, c'est pas incompatible. Tu peux te faire pomper sur ta barque.
Et là, tu te renverses. Ça, c'est bien. T'es sur la barque.
Ah, mais c'est ça. Ça y est, c'est la mort idéale. Tu te fais pomper sur ta barque.
D'un coup, tu perds l'équilibre. Tu tombes dans l'eau. Ta tête cogne un gros rocher et une grenouille saute sur ton corps. Voilà.
Ouais, c'est beau.
C'est beau. Hein.
C'est très beau.
Et voilà. Ensuite, l'enregistreur s'est éteint car j'avais plus de batterie. J'ai continué d'enregistrer avec l'iPhone, la toute fin, mais ça durerait des heures si je voulais ajouter. Puis ensuite, il y a eu les vocaux WhatsApp échangés avec François. Je préfère finir sur la description de cette mort, la plus belle et la plus drôle jamais imaginée dans le podcast. Il n'y aura pas d'épisode meilleur moment cette semaine car je n'ai pas le time. Et de toute façon, ce serait impossible d'en extraire un. Si j'avais eu encore 2 heures devant moi, là, j'aurais peut-être monté le moment où on parle de la symbolique des émojis.
Mais c'est pas le meilleur moment, peut-être celui où François raconte sa toute première fois et l'irruption du grand frère. Pour moi, tout l'épisode est extrêmement réussi. Je pense que vous serez d'accord, on est sur l'une des pépites de cette saison 3. Décidément, les acteurs ont été très bons en podcast. Valentin de Carbonnière avait également été drôle et touchant. Je vous laisse à présent. Merci à ceux d'entre vous qui sont venus voir mon spectacle à Bordeaux vendredi dernier. J'étais très heureuse de vous rencontrer. Je vous dis à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.